France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Dans le Val-de-Marne, à Maison-Alfort, nous attend Quentin, jeune responsable d'un café-restaurant associatif un peu particulier, puisque les adhérents peuvent passer au fourneau chaque semaine et faire le service. Baptisé le lieu commun, ce lieu se définit comme un espace d'expression et de partage qui ne se résume pas à la seule cuisine. Et puis une belle histoire d'un artisan créateur de jouets en bois dans sa nouvelle vie, qui vient d'achever un tour de France des commerces sur un vélo en bois. Il s'appelle Raphaël Argou, concepteur des jouets Ratapon. Il sera notre deuxième invité.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Quentin Delpierre, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes responsable du lieu commun. Alors peut-être que le lieu commun entrera dans les lieux communs un jour. On parle de commun, de mise en commun, de partage, d'utilisation par toutes et tous, soit d'un espace, soit des outils proposés par cet espace, soit une prise en charge aussi des animations. Ben, c'est le cas avec ce café-restaurant né en 2019. La première préoccupation lors de l'ouverture de ce café-restaurant associatif, c'était évidemment de relocaliser l'alimentation et de proposer une cuisine saine.
Exactement, oui, c'est vraiment notre but principal. On fait tout un travail sur une sensibilisation à un mode d'alimentation alternatif. Donc notamment en travaillant des produits bio et locaux, tout est fait maison sur place et le menu change tous les jours. On essaye aussi de tendre vers le zéro déchet, le zéro gaspillage, et c'est une cuisine qui est accessible à des prix raisonnables.
C'est-à-dire quand on va aux 3 rue Gabriel Péri, à Maison-Alfort, au lieu commun, on peut obtenir un menu sur place ou emporté qui varie entre 10 et 12 euros.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le tarif pour les adhérents, puisque c'est une association. Mmh. Donc, les adhérents ont un tarif préférentiel. Pour les non-adhérents, c'est entre 10 et 14 euros.
Et en général, les premiers à entrer dans l'association sont des habitants de longue date de Maison-Alfort ou de nouveaux venus?
Alors, on a un petit peu de tout. C'est vraiment un lieu qui est très local. Hein. On a à peu près 500 adhérents aujourd'hui et on a des anciennes personnalités de Maison-Alfort et des nouveaux venus qui sont aussi contents de trouver ce genre de lieu. Et c'était aussi notre désir à la base d'agir dans l'approche banlieue et de dire voilà que aussi on pouvait l'approche banlieue pouvait être dynamique et pouvait proposer ce genre d'alternative là.
Et avec le lieu commun Maison-Alfort, on sort aussi de la restauration pour participer à des événements, même les organisations le souhaitent, si j'ai bien compris, des événements culturels, des ateliers d'initiation, de fabrication par exemple.
Exactement, oui, ça c'est le deuxième volet de l'association et l'objectif, c'est encore une fois la dynamisation de la vie de quartier. Et nous, notre but, c'est vraiment de laisser place à l'initiative dans ce lieu. Ce sont en fait les adhérents qui proposent les activités qu'ils ont envie de voir dans ce lieu commun, justement, et donc, effectivement, qui proposent des concerts, des discussions féministes, par exemple, des projections de documentaires ou de films, avec des débats, des ateliers manuels. Tout ça est fait, en fait, par les adhérents bénévolement pour faire vivre ce lieu et pour partager des compétences, des savoirs, des ressources, créer du lien, tout simplement.
Est-ce que vous voyez un accroissement des besoins?
Pas forcément un accroissement, mais par contre, on a senti, effectivement, que le besoin était là dès notre arrivée. Et le projet a tout de suite parlé aux habitants du quartier parce qu'on a senti vraiment ce besoin de s'investir localement, de faire vivre un lieu et surtout ce besoin d'un espace de liberté et d'expression, qui est le lieu commun, où les gens sont vraiment très heureux de partager avec d'autres lors d'ateliers ou même de manière plus informelle. Et c'est vrai que nous, on est aussi super contents de voir qu'il y a des gens qui viennent seuls au lieu commun et qui savent qu'ils vont trouver quelqu'un à qui parler, avec qui échanger, un sujet de conversation, que ce soit le midi ou le soir, hein, sur les activités à n'importe quel moment. Et donc ça pallie aussi à un isolement qu'il peut y avoir même dans des milieux urbains assez denses. Et on est très heureux que ce lieu remplisse toutes ses fonctions, quoi.
Et alors, c'est un lieu participatif. Exemple, si je mets mon tablier, je participe au service, vous m'invitez à votre table.
Exactement. Alors vous pouvez, on fait des événements en fait où on propose aux adhérents de venir cuisiner. Donc ça s'appelle comme un chef. Et en fait on donne les clés de la cuisine à un adhérent qui propose un entrée plat dessert pour le généralement le soir pour partager encore une fois avec les autres usagers du lieu. Et vous pouvez aussi également venir faire le service le soir. On a un fonctionnement en binôme le soir, un salarié et un bénévole. Et donc les adhérents viennent aussi participer au service le soir pour faire vivre le lieu, encore une fois, qui leur est cher.
Je rappelle, le lieu commun est 3 rue Gabriel Péri à Maison-Alfort. Il y a une page Facebook, le lieu commun. Merci Quentin.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
La Fédération Française de Slam Poésie. Oui, parce qu'elle existe bel et bien, définit le slam, je cite, comme un outil de démocratisation et un art de la performance poétique. Parfois, une confusion est faite entre le slam et la lecture de poésie. Dans ce dernier cas, on parle de spoken word, contrairement au slam qui se joue, se déclame ou se chante. Alors évidemment, les anglicismes vont bon train dans ces pratiques artistiques par leur genèse américaine au milieu des années 80. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le slam s'entend comme un tournoi de performance, ce qu'il demeure avec la nouvelle édition du Grand Slam qui débute lundi prochain à Paris durant toute la semaine. Ce sont 21 poètes ou poétesses venus de 21 pays qui vont se produire en différents lieux, différentes scènes de Belleville pour disputer toute la semaine cette Coupe du Monde de poésie, en particulier au Cirque électrique, dont la toile rouge toise les voitures qui circulent sur le périphérique, et également au Théâtre Clavel. Cette édition comprend aussi un slam national avec 52 poètes et poétesses qui se produiront à partir de jeudi prochain, dans un peu moins d'une semaine, dans 12 villes de l'Hexagone, et enfin de vendredi à dimanche, des événements dits de spoken word, place Fréhel, dans le 20e arrondissement de Paris. Ça promet un feu d'artifice de mots qui claque, qui chante, qui enchante. Grand Poétrie Slam.com, ça c'est l'adresse. Raphaël Argout, bonjour.
Bonjour.
Bravo, j'avais parlé de votre périple, je le trouve savoureux. Vous appartenez à cette génération de jeunes entrepreneurs qui décident de véhiculer leur savoir-faire par la route. Et vous, c'est pour faire valoir vos jouets en bois. Vous aviez besoin d'aller frapper aux portes des magasins en France ?
Exactement, en fait, moi j'ai créé mon activité de jeux et jouets en bois avec du bois français et fabriqué en France. Et en fait, pour réussir, j'ai l'impression, dans cette activité, il fallait que je sorte un petit peu de chez moi pour aller rencontrer des magasins, pour comprendre leurs besoins, comprendre comment ils travaillent, et puis me faire connaître, faire parler de ma marque et de mes produits, leur montrer, c'est important aussi, pour qu'ils puissent avoir les produits entre les mains. Et du coup, cette expérience à vélo a été super bénéfique pour ça. J'ai rencontré plein de magasins, donc c'est très bien.
C'est une entreprise récente, elle s'appelle Ratapon, les jeux et jouets en bois. Elle est née il y a 2 ans. Vous étiez dans un autre secteur d'activité, mais vous êtes tombé complètement amoureux du bois.
C'est ça, en fait, moi j'ai fait des études d'ingénieur en matériaux. Donc j'étais plutôt parti pour aller dans la métallurgie, la microélectronique ou les polymères. Et en fait, mon premier travail a été dans les maisons à ossature bois vers Marseille, où j'ai appris plein de choses sur l'industrie du bois. J'avais le travail du bois comme passion à côté. Et en fait, premier confinement aidant, j'ai eu pas mal de temps pour me pencher sur le sujet des jouets en bois qui commençaient à me trotter dans la tête. Je me suis rendu compte que dans le monde des jouets en bois, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites à l'autre bout de la planète, avec du bois d'Europe de l'Est. Et qu'en fait, on avait toutes les choses pour les faire chez nous. Donc, je suis parti dans cette aventure fort de mon expérience dans mon ancienne boîte. Et depuis, ça se passe bien. J'ai monté cette marque et je suis dans une coopérative d'activité et d'emploi.
À Lyon.
C'est ça, à Lyon, ouais.
Qui s'appelle Cap Service. Vous avez créé une chaîne de fabrication par la même occasion.
Tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à faire des prototypes des différents jouets que je voulais faire. Donc là, je venais de quitter mon ancien emploi. Je savais pas encore trop où j'allais, si j'allais faire ces produits dans mon garage ou s'il fallait que j'investisse dans des machines. Et en fait, j'ai rencontré un ESAT, donc un établissement et service d'aide par le travail, un centre médico-social qui met à disposition des postes de travail pour des personnes en situation de handicap. Et en fait, ils étaient déjà implantés, ils avaient leur atelier de menuiserie, des super machines, plein de savoir-faire. Et je suis arrivé avec mon projet et on a travaillé ensemble un peu comme un bureau d'études. Ils avaient jamais réalisé des petits objets de type jouet. Ils étaient plutôt sur des grosses pièces, plein de choses très complexes. Et avec mon projet, en fait, ils ont bien accroché. On a fait une première production qui s'est bien passée. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils sont capables en fait de faire toute la ligne de production des jouets. Donc ils reçoivent le bois massif et c'est eux qui vont raboter, qui vont découper, usiner, qui vont poncer. Et là, on travaille vraiment pour qu'ils arrivent à voir vraiment tous les produits qui passent de A à Z jusqu'au petit sac en tissu qui va emballer les produits et l'étiquette.
Alors c'est en travaillant, comme vous le disiez, sur des maisons du côté de Marseille à Ossature-Bois que vous avez découvert votre passion pour ce matériau. Votre passion se porte plutôt vers le noyer, le peuplier, l'érable ?
Moi, je pense que mon bois préféré, c'est le noyer. Parce que il a vraiment des teintes surprenantes, il peut être très foncé, il peut être plutôt clair, il est très veiné de temps en temps. Donc j'essaye d'en intégrer un petit peu dans mes jouets, c'est quand même un bois noble qui coûte beaucoup plus cher que les autres, donc j'en mets des petites touches. Mais c'est vrai que moi ce qui me fascine dans ces différentes essences de bois, je fais des produits qui sont sans peinture, sans vernis, parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin en fait, je les fais certifier tels quels. Parce que les différentes essences apportent beaucoup de contraste, en fait.
Alors, dans ce Tour de France, puisqu'on arrive à l'épilogue, ça y est, c'est terminé, est-ce que vous avez eu que des accords positifs et des accueils positifs ou des rejets de la part de boutiques de jouets ?
J'ai eu des accueils très positifs. J'ai rencontré des boutiques qui ont bien aimé les produits, qui ont bien aimé l'histoire que j'ai racontée avec. J'ai des boutiques qui ont été un peu plus... c'est un peu plus difficile, parce qu'en fait, travailler avec des produits français... les produits français, ils ont un coût, les matières, elles ont un coût, la fabrication aussi. Et du coup, pour eux, c'est difficile de pas travailler comme avec des produits chinois où ils peuvent faire des marges importantes. Ah. Donc il y a quand même actuellement, c'est difficile, de vendre des produits français parce que le commerce est peut-être pas tout à fait prêt pour ça. Et tout comme les gens, en fait, le prix public des produits en bois français est plus élevé que des produits chinois. Mmh. Et moi, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est la durabilité des produits. Le fait qu'il faut mieux acheter un produit français qui va durer 4 générations d'enfants que 5 produits chinois qui vont être à usage unique. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à continuer ma prospection pour essayer de transformer toutes ces rencontres en commandes et en partenariat.
Et pour aller jusqu'au bout de la logique, vous avez fait ce Tour de France sur un vélo en bois.
C'est un ami qui lance son entreprise de vélo en bois et il travaille avec des bois massifs qui sont à côté de chez lui. Et il arrive vraiment à façonner ses vélos pour qu'ils soient compétitifs face aux vélos de la gamme concurrent, on va dire. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler sur ce vélo. C'est vraiment une très belle pièce, super expérience.
Ouais, Cycle Veine, il y a une page Facebook. Et puis pour Ratapon, ratapon.fr. J'aime beaucoup ce nom.
Pour la petite histoire, c'est le surnom que m'en donne mon papa depuis que je suis petit et que j'embrasse très fort.
D'accord. Merci Ratapon.
Merci.
Merci Raphaël. On revient dans le Val-de-Marne avec un gros coup de pouce au profit de l'association Créteil Ressourcerie Val-de-Marne qui, depuis sa naissance en 2020, utilise des locaux temporaires. Vu les activités qu'elle a mises sur pied, comme les ateliers de réemploi, les événements locaux en dehors des collectes et des ventes d'articles de seconde main, elle recherche des locaux pérennes dans la ville de Créteil. Je sais que c'est pas facile. D'ailleurs, face au problème du foncier en milieu urbain, l'association a répondu à l'appel à innovation lancé par la régie immobilière de la ville de Paris. Cet appel se justifie par les 35 000 places de parking disponibles à Paris depuis la réduction de l'utilisation des voitures particulières dans les métropoles, les grandes villes. Et face à cette vacance, la régie mène des expériences de transformation de ces places et prévoit l'installation d'activités alternatives. Pour joindre la ressourcerie de Créteil, vous allez sur le site de l'association, vous trouverez les coordonnées directes. C'est créteil-ressourcerie.fr. Dans nos prochaines destinations, nous passerons par la Haute-Marne dans 10 jours, ensuite en Côte d'Or, ensuite dans l'Eure, la Manche et l'Orne, si vous habitez ces départements. Merci de nous tenir au courant des initiatives et innovations du côté de chez vous. Merci à Joël Levert qui apportait du contenu au carnet. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnaient du volume comme aujourd'hui. Clément Vuillet.